Il est 22h à Paris, c'est l'heure du journal en français facile sur RFI.
Philippe Le Caplin.
À la une de l'actualité, le président turc rend à Sainte-Sophie son statut de mosquée. Décision prise une heure à peine après que la plus haute juridiction a annulé le décret de 1934 ayant transformé l'édifice en musée. L'affaire Adama Traoré en France continue. En effet, les juges ordonnent une nouvelle expertise médicale pour élucider les circonstances de sa mort après son arrestation par la police. La mort de Philippe Monguillot, ce chauffeur de bus de Bayonne, avait été roué de coups et grièvement blessé à la tête par quatre hommes à qui il demandait de porter un masque et de présenter un ticket de transport.
Le journal
en français facile.
En français facile.
Au Mali, une nouvelle grande manifestation contre le président Keïta, avec un certain nombre de manifestants qui ont appelé à la désobéissance civile. Il y a eu des affrontements et au moins une personne a été tuée. Deux des trois ponts de la ville ont été bloqués. C'est la troisième grande manifestation organisée en deux mois par la coalition du mouvement du 5 juin, formée de chefs religieux, d'hommes politiques et de la société civile. L'UNESCO regrette vivement, la Grèce parle d'une provocation envers le monde civilisé et les États-Unis se disent déçus concernant la transformation de l'ex-basilique Sainte-Sophie d'Istanbul en mosquée. Le président turc a signé un décret permettant la réouverture de l'édifice au culte musulman, cela juste après que le Conseil d'État turc a abrogé le statut de musée de cette ancienne basilique byzantine transformée en mosquée à la conquête ottomane, puis devenue un musée sous la République. À Istanbul, Alain Lauer.
Le Conseil d'État turc, qui examinait la plainte d'une association musulmane, a décidé d'annuler le décret ministériel de 1934 qui avait transformé Sainte-Sophie, elle était encore mosquée à l'époque, en musée. Le Conseil fait valoir que Sainte-Sophie est, depuis la conquête ottomane, la propriété de la fondation Fatih Sultan Mehmet Han, du nom du sultan qui a conquis Istanbul, que les statuts de la fondation en garantissent l'usage comme mosquée, à l'exclusion de tout autre usage. En clair, que le décret de 1934, pourtant signé de la main du fondateur de la République, Mustafa Kemal Atatürk, était donc illégal. Cette décision n'est pas une surprise. La presse pro-gouvernementale avait dévoilé il y a plusieurs jours l'issue des délibérations. En revanche, le Conseil d'État renie sa jurisprudence puisqu'à trois reprises, en 2008, 2012 et 2015, diverses formations du Conseil avaient débouté cette même association. Mais il faut le dire, à l'époque, le président Erdogan refusait de revenir sur le statut de Sainte-Sophie. À cause de l'érosion de son électorat et des tensions avec l'Occident, il a changé d'avis ces dernières années et la justice l'a donc suivi. Anand Loire, Istanbul, RFI.
La France a franchi le cap des 30 000 morts concernant la pandémie de coronavirus. L'agence sanitaire publique France alerte sur l'augmentation de la circulation du virus. La pandémie qui fait que la Serbie annonce un nombre record de morts, 18 décès et 386 nouvelles contaminations. Les autorités dénoncent l'irresponsabilité des manifestants qui sont descendus dans la rue ces derniers jours pour crier leur colère face à la gestion de la crise sanitaire, justement. En Irak, une députée décède du Covid-19 et puis ce chiffre qui montre une hausse de 600% des cas au mois de juin. Les écoles de Hong Kong vont, elles, à nouveau fermer après un regain épidémique, Florence de Changy.
Jardins d'enfants, écoles primaires, collèges et lycées sont en vacances dès aujourd'hui à Hong Kong, soit 10 jours plus tôt que prévu, et la date de la rentrée est également en suspens. Il reviendra aux écoles de décider de maintenir ou non les examens prévus la semaine prochaine, certains étant déterminants pour l'entrée en secondaire. Les élèves étaient déjà en période de rattrapage, ayant perdu 4 mois de scolarité cette année. Les épreuves de l'équivalent du bac ont-elles déjà pu avoir lieu ? Cette mesure est prise à titre préventif pour répondre notamment à l'inquiétude des parents, car il n'y a pas eu, à ce jour, un seul cas de transmission à l'école. L'énorme salon du livre qui doit ouvrir la semaine prochaine et qui accueille chaque année des centaines de milliers de visiteurs tous les jours est pour le moment maintenu car selon la ministre de la Santé, la plupart des contaminations ont lieu lors d'activités non masquées, notamment en famille ou dans les restaurants et dans les taxis où il est désormais conseillé d'ouvrir les fenêtres après que plusieurs chauffeurs ont été testés positifs. Florence de Changy, Hong Kong, RFI.
Au Soudan, à retenir aujourd'hui la promulgation d'une loi pénalisant l'excision. En France, le gouvernement reste défavorable au don d'ovocytes entre deux femmes d'un même couple. Déclaration du ministre de la Santé, Olivier Véran. L'autorisation de cette technique, dite ROPA, avait été rejetée lors de la première lecture du texte par les parlementaires. Mais les députés ont voté cette disposition en commission avant la deuxième lecture qui doit commencer le 27 juillet. Un procès très inhabituel en Suède. Une diplomate se retrouve devant un tribunal. L'ancienne ambassadrice suédoise à Pékin, Anna Lindstedt, était accusée d'avoir outrepassé ses fonctions en essayant de faire libérer de Chine l'éditeur suédois-chinois Gui Minhai. Elle encourait 2 ans de prison, mais a été acquittée aujourd'hui, Anissa El-Jabri.
Au cœur de ce qui était reproché à la diplomate, une rencontre organisée en janvier 2019 dans un hôtel de Stockholm. Étaient présents des hommes d'affaires disant avoir des contacts avec le pouvoir chinois et la fille de Gui Minhai, un chinois naturalisé suédois de 56 ans. Cet homme publiait dans une maison d'édition de Hong Kong des livres au contenu salace sur les dirigeants chinois. Il avait disparu mystérieusement lors de vacances en Thaïlande en 2015, puis était condamné à 10 ans de prison par un tribunal du Nord-Est de la Chine pour, je cite, « avoir illégalement diffusé à l'étranger des informations classées ». La rencontre se voulait discrète, mais elle était venue aux oreilles du renseignement intérieur suédois. Ouverture d'enquête puis procès, la diplomate de 30 ans de métier était depuis sans affectation. Le procureur avait demandé une peine de sursis. Il y a 3 semaines, le tribunal a, lui, relaxé Anna Lindstedt avec ce motif. Pas de délit de négociation arbitraire avec une puissance étrangère. En février dernier, 21 anciens ambassadeurs l'avaient défendu dans la presse. C'est la première fois depuis plus de 200 ans qu'un ambassadeur était jugé en Suède.
Aux États-Unis, la Cour suprême reconnaît que la moitié de l'Oklahoma est une réserve amérindienne. Cette réserve avait été créée dans les années 1830 pour y regrouper des tribus venues de l'est du pays. Mais depuis des décennies, le traité qui promettait ces terres aux Indiens était bafoué. Conséquence de la décision de la justice, ce sont les lois amérindiennes et fédérales qui s'y appliquent et non pas celles de l'État de l'Oklahoma. Cette décision pourrait servir de précédent, comme l'explique Paul Shore, maître de conférence en civilisation américaine à l'Université de Paris.
La décision portait sur un membre d'une nation indienne qui était poursuivi pour agression sexuelle sur des mineurs. Et l'argument était, oui, mais comme le crime supposé s'est passé sur le territoire indien, les tribunaux de l'État de l'Oklahoma ne sont pas compétents, c'est-à-dire qu'on reconnaît qu'il y a une sorte, enfin pas exactement d'extraterritorialité, mais que sur une partie importante en superficie de l'État de l'Oklahoma, les tribunaux criminels de l'État n'ont pas de compétences. Ça s'appliquera pas forcément dans d'autres États des États-Unis, puisque ce qu'ils disent là, c'est qu'ils font référence aux traités qui concernent ce territoire, mais c'est potentiellement une victoire importante pour les nations indiennes, qui peuvent du coup dire qu'il faut prendre au sérieux la promesse de souveraineté partielle qui était contenue dans les traités et qui a été très peu respectée.
Propos recueillis par Véronique Guémard. Revenons à l'actualité en France. Dénonçant la culture du viol en marche, plusieurs milliers de manifestants ont protesté à Paris, dans plusieurs villes de France, contre la présence au gouvernement de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur est accusé de viol. Éric Dupond-Moretti était également visé car il a été très critique envers le mouvement MeToo. Philippe Monguillot vient de décéder. Ce chauffeur de bus de 59 ans avait été roué de coups et grièvement blessé à la tête par 4 hommes à qui il demandait de porter un masque et de présenter un ticket de transport. Les chauffeurs de bus du réseau de l'agglomération de Bayonne reprendront le travail lundi. Ils avaient exercé leur droit de retrait après l'agression. Un accord a été signé aujourd'hui et il prévoit notamment la présence d'un agent de sécurité à bord de tous les trams bus. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se rendra demain dans la ville. Concernant la mort d'Adama Traoré, il y a 4 ans, une expertise médicale est demandée par les juges à des médecins légistes belges. L'affaire récemment revenue sur le devant de la scène, après la mort aux États-Unis de George Floyd, s'est mue sur le plan judiciaire en une bataille d'expertise médicale. Le parquet de Paris enquête sur des fraudes massives au chômage partiel à partir du confinement. Elles ont occasionné plus de 1,7 million d'euros de préjudice. Selon les premières investigations, les demandes frauduleuses de versement d'indemnités se faisaient par télédéclaration en usurpant la raison sociale et le numéro d'identification SIRET d'entreprises existantes qui ne demandaient pas à bénéficier des aides à l'activité partielle. C'est la fin de ce journal en français facile. Il est 22h10 à Paris.